envie cette fois-ci de reprendre ce que nous avons dit. Parce que je crois que la dernière fois, on avait regardé les genres littéraires et j'ai envie de le reprendre. Ça fera pas, j'espère, ça fera pas répétition, mais c'est jamais une répétition de toute façon. Mais c'est bien parce que tout ça, c'est des termes. Nous employons des termes donc hébreux et on n'a vraiment pas l'habitude de ces termes hébreux. Viens ici, ça c'est mon apôtre là ici. Geneviève, c'est pour. Il y a une place ici? Oui. Reprendre, si ça vous ennuie pas, j'ai envie de reprendre ce que nous avons vu la dernière fois. Bon, je reconnais, on va essayer de répéter, mais je ressens pour moi-même la nécessité de répéter. Cette fois-ci, parce que je reconnais que ce n'est pas facile. Nous avons si peu l'habitude de rentrer dans cette énergie, cette dynamique. De l'entrée dans le paradis des Écritures, que je crois qu'il faut reprendre tout le temps, tout le temps. Et dès la fois prochaine, on va approfondir donc un seul de ces aspects, puisque vous voyez bien que cette espèce de prospective générale, là, donc nous avons déjà vu, pardon, très très mauvais, et là je serai un très mauvais professeur de géométrie, voilà. Alors c'est censé être un cercle parfait, voilà. Voilà ici l'écriture révélée, la révélation. La révélation, il faut que je m'approche d'elle. Pour ça, il faut avoir un amour maternel pour la parole de Dieu. La Vierge Marie a engendré en elle ce Verbe de Dieu manifesté dans la chair. Et nous avons vis-à-vis de la Bible souvent cette fausse manière d'approcher l'écriture comme si elle était extérieure à nous. La Bible, la parole de Dieu n'est pas extérieure à nous. Et nous avons vis-à-vis de la Bible comme une relation initiale enveloppante. Et ça, c'est l'intuition de Rabbi Akiba. Vous voyez bien qu'il y a un, que nous devons avoir une relation donc vitale. Personnel avec la Bible. Il y a une communion des personnes avec la Bible, avec la révélation, avec la parole de Dieu. Et les paroles de l'Écriture, les mots, les lettres, les versets et l'ensemble même de la révélation constituent, pour ainsi dire, comme le visage donc de la présence personnelle de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a une chose très spéciale dans la parole de Dieu, je vous le disais, je vous le répète, c'est que c'est pas la même chose qu'un autre livre, vous voyez? On a tellement l'habitude de lire un autre livre, on va lire Saint Jean de la Croix, par exemple. C'est tout de même des textes inspirés. C'est vrai, si on va lire le dialogue de Catherine de Sienne, c'est tout de même des textes inspirés, imbibés, brûlés par l'Esprit Saint, quand même. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la révélation. Rien. Rien. Strictement rien. N'a aucun rapport. On n'approche pas de la révélation comme d'un texte totalement inspiré par Dieu. Vous voyez, strictement rien à voir. Vous voyez. Quand Dieu est présent réellement et que c'est lui qui parle, que c'est lui qui est présent, que c'est lui qui s'adresse à nous, regardez, vous voyez, le message eucharistique, par exemple, ça y est, nous sommes enveloppants, nous nous en nourrissons, il est au centre de nous. Vous voyez, c'est l'Eucharistie, ce. Ce n'est pas extérieur à nous. L'Eucharistie, c'est pour être mangée et pour que tout de suite, dès que l'Eucharistie est on est en contact avec elle, voilà, on a une relation enveloppante, on a une relation de foi. C'est par la foi que qu'on rentre dans la révélation divine. La révélation concrète, la révélation, vous voyez, incarnée. C'est un sacrement, vous savez ça. Et la foi. Au fond, c'est maternel. C'est la mère de la foi, la matrice de la foi, la source de la foi, c'est la Vierge Marie. L'acte de foi de Marie est le modèle de notre foi. Vous voyez? Et tout de suite, ça y est. Dès que le Dieu est présent de manière incarnée en nous, c'est-à-dire vrai, à ce moment-là, ça y est. Il est dans nos entrailles, il est au centre de notre âme, c'est ce qui s'est passé pour le mystère de l'incarnation. Et voilà la grande intuition juive, hein, sur la parole de Dieu. Vous voyez? C'est très important ça, parce que ça va être pareil pour nos rapports avec les sacrements, avec les saints qui sont morts, avec les saints qui sont encore vivants. Parce qu'on va dire, aussi, il y a des saints qui sont vivants. Oui. Si je n'ai pas compris ça, eh bien, je vais aller voir des gens qui, soi-disant, disent, moi, je suis un saint, vous êtes prié de m'écouter. La Sainte Vierge passe par moi. Le Saint-Esprit passe par moi. Alors, on va aller voir ces soi-disant gourous, etc. Vous voyez? Alors, on va finir par avoir la tentation de rentrer dans une religion sectaire. Là, on parle beaucoup des sectes en ce moment, n'est-ce pas? Et c'est toutes ces espèces de manipulations soi-disant divines sur les gens, vous voyez. Et c'est pas du tout pareil que la direction spirituelle, qui est la manière catholique de faire, vous voyez, la manière surnaturelle de faire. La différence énorme qu'il y a entre le pré-terre naturel, n'est-ce pas, et le surnaturel. Vous voyez ? Une différence totale. Là, ici, c'est du métapsychique. Le préter naturel, c'est du métapsychique, n'est-ce pas ? Et ici, c'est du métaphysique. N'est-ce pas ? Non seulement c'est du métaphysique, naturel, mais en plus c'est méta. N'est-ce pas ? Ça n'a rien à voir. Je suis soumise aux fréquences des puissances intermédiaires, traduisez les puissances déchues. Ici, je suis soumise, vous voyez bien, à Dieu. Les puissances intermédiaires qui sont déchues, je vais vous dire, je ne suis pas manichéen, mais attention, vous voyez, je fais une différence quand même entre le bien et le mal. J'ai une manière mauvaise, vraiment mauvaise, de lire la Bible. C'est pour ça que c'est très important ce qu'on fait là. L'air de rien, c'est ça ? J'ai une manière qui est fausse. Si je fais le choix de lire la Bible et de dire « Ah, la Bible m'a parlé aujourd'hui, c'est merveilleux, ça y est, j'ai ouvert la Bible, etc. » Et je peux utiliser la Bible comme j'utilise une boule de cristal. Vous voyez, ça peut m'aider. Je ne dis pas que... mais ce n'est pas ça, vous voyez. C'est une manière fausse. À ce moment-là, c'est une manière subjective de lire la Bible. Pas une manière surnaturelle, vous voyez. La subjectivité de ce que je ressens, mes impressions, c'est mal. C'est une hérésie. C'est moi qui fais le choix de lecture. C'est moi qui fais le choix. Vous voyez, j'ai ressenti quelque chose de très fort en lisant la Bible. Et bien là, c'est moi qui fais le choix. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit, airesis, en grec. Airesis. Alpha, n'est-ce pas, iota, rho, etc. C'est pas airesis, le choix. Voilà, ça se traduit en français par hérésie. Non, c'est Dieu qui m'a choisi. L'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est pas moi qui choisis le sens de l'Écriture. Lisez par exemple l'Épître de Saint Pierre. Aucune parole de l'Écriture n'est objet d'interprétation personnelle. C'est l'Esprit Saint qui a parlé et donc aucune parole de l'Écriture n'est objet d'interprétation personnelle. Ah, j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. Par exemple, là aussi, dans la vie, c'est pareil. Dans la vie courante, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on ne m'aime pas, imbécile. Faut pas être givré. J'ai l'impression qu'on me rejette. Mais non ! On n'a pas le droit de s'appuyer sur ses impressions. Ça, la grande dicton d'Aristote. Même pas besoin d'être religieux pour comprendre ça. On n'a pas le droit de vivre à partir de ses impressions. C'est pas ça. Personne ne te rejette. Peut-être te rejettes-tu toi-même et que du coup, tu projettes sur les autres ce rejet que tu as de toi-même. Mais ça, c'est psychologique. C'est pas humain. Et en plus, tu vas accuser les autres de porter ce que tu portes toi-même quant à ta relation avec toi-même. Ça, c'est psychologique. Ça n'est pas vrai. Or, et du coup, tu t'enfermes dans un truc. Tu enfermes les autres plus dans ton impression. Tu, non seulement tu es esclave, mais en plus tu veux rendre les gens esclaves et tu les accuses en plus, alors encore mieux. Ça, c'est mal. Eh bien, l'apprentissage pour sortir de ce défaut, peut-être un des meilleurs apprentissages, c'est de rentrer dans la foi et puis de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que se nourrir de la parole de Dieu, c'est ça qui va nous ouvrir notre esprit, notre âme précisément au monde métaphysique, au monde du coup surnaturel. Vous voyez, j'ai vu l'émission là sur les sectes, là peut-être comme vous, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu plein d'émissions sur les sectes et tout. Eh bien, une chose qui m'a fait bondir, comme ça me fait bondir toujours la télévision, si je ne bondis pas la télévision, c'est que je suis devenu malade. Et un jour, vous me dites, je trouve que la télévision a beaucoup changé, tu vois, et que vraiment c'est génial la télévision, hein, vous pouvez me demander de ne plus venir, quoi, parce que c'est plus la peine. Moi, je vois une émission de télévision, je bondis, c'est pas compliqué. Bon, alors, voilà. Alors, il disait, voilà, oui, il parlait de phénomènes donc surnaturels. C'était pas surnaturel, les phénomènes qu'il présentait, c'était des phénomènes d'ordre préternaturel. L'amalgame, vous voyez? L'amalgame entre le métapsychique et le monde spirituel. L'amalgame entre la NDE, Near Death Experience, et puis ce qui se passe spirituellement après la mort. C'est invraisemblable, ça. L'amalgame entre l'astral c'est le monde du démon, hein? C'est le démon qui est le maître de l'astral, hein? Faut jamais oublier ça, hein? Et puis le monde spirituel, le monde c'est-à-dire de l'être, vous voyez, ce qu'on regarde le samedi, le monde de la finalité, vous voyez, le monde de la vérité. Vous voyez? C'est invraisemblable qu'on soit incapable. J'ai vu plusieurs émissions de télévision. Ils ne sont pas capables de faire. Et pourtant, ils posaient la question. Hein, je me rappelle, c'était François de Closet. Ils posaient la question, quelle différence y a-t-il entre l'extase du type NDE et l'extase qu'on a dans Thérèse d'Avila? L'extase chrétienne, surnaturelle, spirituelle. Le prêtre qui était là, qui est pourtant un des meilleurs prêtres, les plus futés, disons, la revue Études, chez les Jésuites à Paris, bon, je ne citerai pas son nom par gentillesse, mais il est passé à autre chose, il savait pas pourquoi, parce qu'il ne savait pas trop ce que c'était que... Mais c'est vrai que dans la tradition chrétienne, on a beaucoup de mal à voir à comprendre la différence entre la mystique de l'embryon et la mystique embryonnaire, vous savez. Quand l'intelligence ne s'exerce pas encore, il y a quelque chose de spirituel quand l'intelligence ne s'exerce pas encore. Mais ce n'est pas l'intelligence qui fonctionne. Hein. Le cœur ne fonctionne pas non plus, donc il n'y a pas d'extase spirituelle. Une espèce d'instase passive sur le plan spirituel, mais bon, c'est pas commode. L'Occident n'a jamais trop prospecté de ce côté-là, n'est-ce pas? Du côté des origines de l'homme, hein, au plan spirituel. Ça, c'est la fameuse question de l'innocence, n'est-ce pas? Avec l'innocence divine. Alors, ça. On sait bien qu'il y a le péché originel, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'innocence originelle perturbée par le péché originel? On sait que ça existe, mais on ne voit pas très bien, tu vois, qu'est-ce qui... Et ils ne savaient pas, mais c'est inouï. C'est inouï. Et si les dirigeants, les pasteurs du peuple de Dieu ne savent pas faire la différence entre le démon et Dieu, je suis vraiment inquiet. Alors, faites attention, donc quelqu'un vous parle d'astral, attention, vous savez de quoi il s'agit, hein. J'espère quand même que depuis 6 ou 7 ans, et quelques-uns, bon là vous n'étiez pas depuis 6 ou 7 ans, parce que... mais j'espère quand même que vous finirez quand même par me croire, je l'espère, n'est-ce pas, oui.
Avant la faute, ils avaient un corps qui n'était pas astral, mais comment l'appellerait-on?
Attention, avant la faute, ils avaient un corps comme le tien, c'est-à-dire ils avaient un corps physique, un corps humain, n'est-ce pas? Ils avaient un corps humain, mais ce corps était le corps. Le corps a donc une extériorité qui qui a toujours la même. Nous avons la même extériorité quant au corps. Mais qu'est-ce qui donne au corps sa forme intérieure? J'ai bien dit sa forme intérieure, sa détermination intérieure, sa luminosité intérieure. C'est l'âme. C'est l'âme, n'est-ce pas, qui donne au corps. L'âme, c'est la source de lumière, de vivification, de détermination et de la forme du corps. Hein, c'est pour ça que l'âme est déjà dans le tout premier moment embryonnaire, ça va. Et c'est cette âme qui fait, c'est pas seulement le développement donc du génétique, c'est aussi l'âme qui donne ce développement formel du corps. Il y a l'association des deux. Il y a l'association du patrimoine génétique qui met effectivement quelque part déjà les espaces latéraux, horizontaux, de profondeur, des différents moments, des différents organes, ça sont déjà présents. C'était justement l'objet des découvertes de celui qui a reçu le prix Nobel cette année, n'est-ce pas? C'est la découverte justement dans le patrimoine génétique de la présence dès la première cellule dans les gènes des espaces horizontaux, verticaux de chacun des organes futurs. Hein, dans la drosophile. La drosophile, c'est une espèce d'insecte, n'est-ce pas? C'est tout de même extraordinaire, cette histoire, que de savoir ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, déjà même dans le point de vue donc, de l'agencement moléculaire physico-chimique du génome, ça c'est purement matériel, si je puis dire, j'ai quelque chose qui correspond donc au développement morphologique du corps. Mais je n'ai pas le développement formel du corps, le point de vue de la luminosité du corps, le point de vue de l'unité entre la vie, la source de vie, et la matière du corps. Le point de vue aussi eidétique du corps.
Ils étaient beaucoup plus dans l'âme avant la faute, puisqu'ils ont découvert qu'ils étaient...
Alors, avant la faute, l'union entre l'âme et le corps, n'est-ce pas? L'union entre l'âme et le corps est évidemment beaucoup plus totale. Bon, le péché originel introduit quelque chose que Dieu va dire la mort, que Dieu va appeler la mort dans la Genèse. Dans la Genèse, Dieu dit, si vous faites le manger du fruit de l'arbre, alors vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir complètement, mais l'assiette va être cassée. Un peu comme si on disait, fais attention, si tu fais gaffe avec l'assiette, si tu tombes, elle va être cassée. Le gosse fait tomber l'assiette et elle ne se casse pas. Donc Dieu m'avait trompé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que dit le démon. Le serpent dit, mais regarde, on va faire tomber l'assiette, pof, ah, elle n'est pas cassée. Alors, tu vois, Dieu t'avait trompé, mais pardon, l'assiette est fêlée. L'assiette n'est pas cassée, tu peux bouffer dedans. Tu peux toujours, c'est ce que je dis toujours, vous m'avez déjà entendu dire ça, tu peux toujours bouffer dedans. Mais malheureusement, si tu mets de la soupe, fais gaffe, la nappe, ça va passer sur la nappe. Donc tu peux bouffer de la viande quand même. Tu peux toujours bouffer. Prends de préférence de la viande. Si tu mets de la soupe, ça va passer sur la nappe. L'assiette est fêlée. Donc la mort est rentrée. Et la mort, c'est quoi? C'est un début, c'est ce qu'on fait le samedi. Donc c'est un début de séparation entre l'âme et le corps. Voyez? C'est un début, c'est un décrochage. Mais l'âme est encore partiellement dans le corps, n'est-ce pas? L'âme fait encore vivre le corps. Mais il y a quelque chose de l'extériorité du corps qui échappe à l'âme spirituelle, à l'âme humaine. Ça va? C'est ça la mort. La conséquence du péché originel, c'est un début, un commencement de séparation de l'âme et du corps. La mort est donc pénétrée dans notre corps et dans notre vie. Par le péché originel, vous voyez. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai. Le résultat, c'est qu'on ne peut plus prendre du préternaturel sans tomber, justement, sans salir la nappe. Dans l'état originel, le préternaturel n'était pas une chose gênante. Dans l'état actuel, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vous voyez. C'est une catastrophe. Voilà, alors, donc continuons et allons à notre sujet quand même. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais de ça, mais enfin, bon, peu importe. Hein. On va revenir à notre sujet, n'est-ce pas? Il y a une manière donc psychologique de lire l'écriture, une manière, disons, normale. Pourquoi? Parce que, voyez, quand on lit la Bible, la différence par exemple avec les plus grands textes inspirés de l'humanité, les mots qui correspondent au texte, même s'ils sont parfaitement justes, les mots qui sont dans les textes de quelqu'un qui est inspiré, bon, eh bien, ces mots-là sont habités. D'accord, ils sont habités, je ne dis pas le contraire. Mais ils sont habités par la foi de celui qui l'a proféré. Vous voyez, Catherine de Sienne, donc, c'est comme si elle portait les mots, l'esprit. Vous voyez, mais les mots eux-mêmes ne sont pas habités en leur centre. Vous voyez bien, ils sont enveloppés par celui qui les a portés. Ils sont habités, certes, mais j'espère que vous voyez la différence avec la parole de Dieu, parce que les mots de la parole de Dieu, non seulement sont des mots habités, enveloppés par l'Esprit Saint, mais en plus, la très sainte Trinité se cache dans ces mots. Premièrement. Deuxièmement, les mots viennent de Dieu. Si vous voulez lire la parole de Dieu, et c'est bien évident que de temps en temps, quand vous êtes fatigué de lire, vous n'arrivez pas à lire, alors arrêtez-vous simplement à un seul verset. À un seul verset. Ou à quelques versets. Si vous êtes trop fatigué, arrêtez-vous à un seul mot. Si vous êtes encore plus fatigué et que vous êtes dépressif, arrêtez-vous à une seule lettre. Et vous verrez comme ça vous fait du bien. Mais c'est ça que je dois vous apprendre, n'est-ce pas? Parce que ça ne fait pas n'importe comment, bien sûr. Alors, sinon, allez-y, vous lisez tout Apocalypse en une heure. Allez, en avant, allez. Vous lisez l'ensemble, le tout. La Bible rayonne dans ses quatre grandes directions. Vous voyez? Parce qu'elle pénètre en moi par l'âme, voilà pour les lettres. Elle m'interpelle de l'intérieur de l'âme, voilà, elle pénètre dans le corps par la lettre. Elle m'interpelle de l'intérieur de l'âme, voyez, remet, c'est le clin d'œil intérieur. Le drash, du coup, elle surabonde dans les versets. N'est-ce pas? Et elle me réconcilie avec toute la création, toute l'humanité, tous les temps, tous les lieux, et nous allons ensemble dans le secret divin. Voyez? Voilà, c'est, au fond, c'est quatre grands axes du rayonnement de la présence de Dieu dans la Bible. Voilà. Bon, ça on l'a vu, donc je continue. Et ce que nous avons vu la dernière fois, nous avons été un peu plus loin la dernière fois, et c'est, il faut toujours faire ça, faire un petit résumé. Parce que c'est ça le problème de faire des thèmes dans une année, c'est parce qu'il faut reprendre. Là, je viens de vous résumer les trois premiers dimanches. Maintenant, le dernier dimanche, nous avons fait quoi? Le dernier dimanche, nous avons regardé. Hein? C'est pas ça? J'avais pas fait ça? Peut-être que j'ai mal résumé, peut-être. Oui. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est parce que s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez, moi je veux bien. Alors, alors simplement, eh bien ça, vous voyez, si on s'arrête là, eh bien je vous ai rien dit du tout. Ça vous sert à rien. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant ne vous sert strictement à rien. Quand vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, vous lisez, il y a quatre sens, le sens littéral, le sens... Vous êtes bien avancé. Comment est-ce qu'on fait? Vous voyez? Il y a, ça, c'est la définition, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez? Et c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Oui, comment est-ce qu'on fait? Il faut donc qu'on distingue maintenant, pour voir la pratique théologique, hein, donc de la connaissance théologique. Théo, c'est Dieu, n'est-ce pas, en grec, et logos, le discours concret, vous voyez, le discours compréhensible, le discours se communiquant, la connaissance intérieure qui est capable de se communiquer, de se donner, c'est le logos. On traduit par verbe. Le verbe s'est fait chair. Logos, c'est le mot logos. Quand on dit le verbe, dans le principe était le verbe. Dans le principe était le verbe. En arché, ho logos. C'était le verbe. C'est ce verbe, c'est logos en grec. C'est important, vous voyez. Et logos, c'est ça, c'est la compréhension que Dieu a de lui-même, mais c'est une compréhension intime que Dieu a lui-même, c'est Dieu lui-même, en tant qu'il est compréhensible à lui-même, qui du coup se communique à lui-même. C'est parce qu'il se communique, non seulement c'est sa compréhension à lui-même, mais en plus elle se communique à lui-même. C'est cette compréhension que Dieu a lui-même, donc lui-même qui se comprend, qui se communique à Dieu pour qu'il puisse le comprendre. Il se communique au Père, le Verbe se communique au Père. Et quand il se communique au Père, le Père assimile le Verbe, et du coup il n'y a plus que, comme tu manges du pain, ça se transforme dans ta propre cellule. Il n'y a plus ni Père ni Fils, et il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus que l'Esprit Saint, il n'y a plus que la vie divine, n'est-ce pas? C'est une vie de lumière, d'amour et d'unité. C'est pour ça qu'on emploie le mot logos, hein, n'est-ce pas? C'est beau d'ailleurs. Parce que vous avez le... Bon, théologique. Si vous voulez faire une approche maintenant théologique, c'est-à-dire une manière de voir cette communication de la vie de Dieu tel qu'il se comprend lui-même en vous-même, de la parole de Dieu, il va falloir quand même qu'on regarde la manière dont on va donc utiliser cette structure de Rabbi Akiba. Rashi, Juda, Hanashi, telle qu'elle était d'ailleurs vécue par Yonatan Ben Uziel. Bon, ça c'est des noms gens que vous connaissez par cœur maintenant. Bon, alors, si vous ne connaissez pas, il y a des cassettes très intéressantes, n'est-ce pas? Il faut que nous fassions donc la distinction, et ça c'est important, entre le sens, les différents sens de l'écriture. Les différents sens. Donc le sens littéral, métaphorique, moral, les sens de la parole de Dieu. Les sens de la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose que les attitudes exégétiques, les attitudes de la connaissance de la parole de Dieu, les manières, si vous préférez, de connaître la parole de Dieu. On va appeler ça les attitudes exégétiques, les attitudes de l'exégète. C'est ça qu'on avait regardé la dernière fois. Et du coup, les attitudes de l'exégète nous feront entrer à l'intérieur de la lettre et du coup des mots, etc. Et on appelle ça cette pénétration à l'intérieur de la lettre, des mots, des versets, de l'ensemble de la Bible, on appelle ça les genres littéraires. Les genres littéraires, vous voyez? Genre, vous rentrez à l'intérieur, littéraire de la lettre, etc. Vous voyez? Lettre, vous avez vu ça bien sans littéraire. Voilà, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Vous vous en rappelez ou pas? Mais je peux vous rappeler un petit peu vaguement, il faut rappeler ça, d'ensemble. Alors, cette étape. Ah, presque, faudrait presque le savoir par cœur ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vous ai déjà dit la dernière fois. Les sens de la parole de Dieu, ils sont là. Vous êtes bien avancé. Vous ne savez pas, vous n'avez pas le mode d'emploi encore. Bon, d'accord. Ok, ça, Dieu est présent dans la parole de Dieu. Très bien, je suis d'accord. Deuxièmement, ça rayonne dans tous les camps. Je suis d'accord. Ça rayonne dans tous les camps. Ah, il y a quatre grands axes. Je suis d'accord. Ce sont ces axes-là. Ok. Alors, comment on fait? Ah, eh bien, il va falloir les... accueillir. Il y a une manière d'accueillir le pshat. Oui? J'accueille le pshat. J'accueille le remes. J'accueille le drash. J'accueille le sod. Comment est-ce qu'on fait pour spirituellement accueillir la parole de Dieu dans sa nudité, la parole de Dieu dans sa présence d'amour, son clin d'œil, voyez, la parole de Dieu dans sa surabondance, sa puissance d'unification, de rassemblement, la parole de Dieu dans son silence, dans son secret. Comment est-ce que je fais pour accueillir ça? Alors, premièrement, alors, pour ça, il faut monter d'un cran, comme vous pouvez le constater. Alors, je vais vous faire le petit tableau ici en haut, là, comme... mnémotechnique. 1, 2, 3, 4. Devinez combien il y a d'étapes. 5, 6 et 7. Et c'est pas moi qui le dis, vous voyez, c'est la tradition de Moïse. C'est ça qui est bien. Moïse, c'était quand? C'était en 1250 avant Jésus-Christ, donc ça fait... Abraham, c'est 2000 avant Jésus-Christ à peu près. Ils sont restés 400 ans en Israël, ça fait 1600 à peu près, 1500 en Égypte. Oui, donc ça fait 3500, hein. C'est bien, hein, 3500 ans, hein. C'est vieux quand même, hein. Ça fait 3500 ans qu'on sait ça, n'est-ce pas? Enfin, qu'on ne le sait plus, peut-être, je ne sais plus. 3500 ans qu'on l'a oublié. Non, on ne l'a pas oublié, puisque à l'époque de Rabbi Akiba, donc vous voyez bien, c'était ce qui a été donc donné de manière explicite, puisqu'on en est tracé, si on l'avait oublié, je ne pourrais pas vous le communiquer, n'est-ce pas? Voilà, alors, premièrement. Alors, moi, je vous le mets comme ça. Il faut michaéliser, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec notre ami Michael, n'est-ce pas? Rien. Il faut michaéliser, Michael, n'est-ce pas? Premièrement. On va appeler ça A. A. Michaéliser. Deuxièmement, une fois que je suis michaélisé, je vais rentrer dans une dynamique merveilleuse, je vais rentrer dans la première attitude exégétique. Il faut targumiser l'écriture. Targum. T-A-R-G-U-M. Il faut targumiser l'écriture. C'est de l'hébreu, hein. Ne vous inquiétez pas, on va traduire ça. Bon. Alors du coup, ça me fait rentrer dans une deuxième pénétration intérieure, une deuxième dynamique, vivification, élan, etc. Pour passer du targum à la deuxième... Pardon, troisième... Non, deuxième. À la deuxième, targum, c'est donc un. Alors... C'est la Haggadah. Nous l'avons vu, je crois, la dernière fois. Haggadah. Voilà. Haggadah. La Haggadah me permet d'accueillir le remez. D'accueillir le remez, comment est-ce que c'est? Il faut machaliser l'écriture. Machal. Une fois que j'ai machalisé l'écriture, eh bien, je peux aller jusqu'au fond pour puiser, pour alors, je peux puiser, j'ai puisé jusqu'au fond, et donc automatiquement, dans un mouvement instinctif, je peux atteindre tout de suite, sans une nouvelle approfondissement intérieur qui me soit propre, je peux atteindre donc justement, à ce moment-là, le midrashiser. Je peux midrashiser l'écriture. Et là, je peux la scruter, l'approfondir, la faire surabonder. N'est-ce pas ? Trois. Vous voyez que c'est pas la même chose. Je ne dis pas, il faut pchatiser, rémésiser, drachiser. Je dis, il faut targumiser, il faut machaler, n'est-ce pas, et midracher. Vous voyez, je fais une différence, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre le premièrement, l'essence de l'écriture, le deuxièmement, n'est-ce pas, les attitudes exégétiques, et le troisièmement, les genres littéraires. C'est différent. Je suis bien dans le même axe, mais ce n'est pas la même chose. C'est ma manière de faire, n'est-ce pas? Alors, une fois que je suis dans le midrashisé, eh bien, il faut halakiser l'écriture, halaka, qui est évidemment une attitude merveilleuse, plus que merveilleuse, la halaka. Et c'est grâce à la halaka que je passe du midrash au secret, au silence, au repos, à la paix, au shalom, à la paix. À l'éternité, à la vie surnaturelle aussi. N'est-ce pas? Hein? Le corps, l'âme, l'esprit, la vie surnaturelle. C'est Dieu est en même temps source de la parole de Dieu, source de mon corps. Il est en même temps source de la parole de Dieu, source de mon âme. Il est en même temps source de la parole de Dieu, source donc de mon esprit. Et il est en même temps source de mon esprit et en même temps source de la grâce surnaturelle. N'est-ce pas? Il faut que ce soit tout ça en même temps, vous voyez. Donc, quelque part, je ne vais pas dire, je vais regarder, non, moi je ne suis intéressé que par ça, n'est-ce pas? Alors je regarde que ça. Mais non, non, la parole de Dieu, c'est toute une dynamique, vous voyez. C'est la foi, et la foi est enveloppante. Et si j'enveloppe la parole de Dieu de cette manière-là, je fais un premier tour, puis, n'est-ce pas, puis un deuxième tour, puis un troisième tour. Et ça y est, ça y est. Il faut donc apprendre cette dynamique. Donc, il faut alakiser. Et à ce moment-là, je peux rentrer dans le fameux secret surnaturel, la halakha, la kabbalah. Il faut kabbaliser l'écriture, n'est-ce pas? Voilà le remède contre l'astral, n'est-ce pas? C'est la kabbale. C'est curieux parce que, on dit le contraire, puisque les gens qui pratiquent l'astral, n'est-ce pas, l'ésotérisme, etc., s'appuient sur la kabbale. Mais la kabbale, qui finalement ne s'appuie plus sur sur la parole de Dieu. Il s'appuie uniquement sur la kabbale. C'est une kabbale séparée. Oui, oui, c'est ça. Alors, la Kabbalah, ça veut dire, on va reprendre ça. Nous avons vu ça la dernière fois. Donc, je m'excuse. C'est un rappel, mais c'est pas du tout inutile de répéter, hein, je crois. Hein. Vous avez l'impression que, je vous l'ai déjà dit, mais vous avez l'impression que c'est pas inutile de le répéter. Bon. Même pour moi, c'est bien de me le répéter. Ça, je ne perds pas mon temps à répéter. Bon. Ouais, c'est vrai. Hein, tu étais là la dernière fois. Ah, bah, ça, évidemment, c'est tout nouveau, c'est sans problème. Alors, bon, ok. Donc, voyons un petit peu comment se réalise cette dynamique, et puis on va essayer de voir un petit peu. Normalement, vous voyez bien que. C'est tout un bin, votre histoire de lire la parole de Dieu. C'est vraiment compliqué, il faut un mode d'emploi, c'est abominable. Bon, mais en fait, non, c'est pas, ne croyez pas ça. C'est très simple, justement. Pour faire ce premier tour, il faut 20 secondes. N'est-ce pas? Il faut 20 secondes, dans le concret. Mais n'empêche que je décortique quand même. C'est pas parce que, vous voyez, je décortique quand même. Pour faire un acte d'amour, il me faut une demi-seconde, n'est-ce pas? Il faut... Et pourtant, j'utilise des choses qui ont mis des années et des années à se mettre au point. Là, c'est pareil, de bien regarder les différentes choses, ça me permet de voir ce que moi je ne fais jamais. Et qui fait que finalement, je ne suis pas capable de faire un acte d'amour surnaturel dans la parole de Dieu. La parole de Dieu me reste quand même quelque part un petit peu extérieure. Elle n'est plus du tout source d'extase pour moi. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu n'est plus source d'extase? C'est incompréhensible. Bon. Source d'extase. Bon, alors ça, Michael, premièrement, Michael, c'est l'attitude, la première manière de rentrer dans la parole de Dieu, c'est de comprendre que c'est Dieu qui est présent en elle, qui en est l'origine, qui en est le fondateur, qui en est le centre du rayonnement, c'est pas moi. La parole de Dieu, elle est maîtrisée par Dieu, elle n'est pas maîtrisée par moi. Donc si je dis, oh, moi l'évangile de Saint Jean, je connais bien, hein. Ça fait 20 ans que je lis la parole de Dieu et l'évangile, et je mets au défi quiconque d'en savoir plus que moi sur l'évangile de Saint Jean. C'est ennuyeux, ça, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous dit ça, c'est embêtant, n'est-ce pas? Bon. Pourtant, vous m'avez souvent entendu dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. Vous voyez, ça veut dire, je n'ai aucun a priori, c'est ça, Michael. Je n'ai pas d'a priori. Je ne vais pas approcher la parole de Dieu avec en disant, ben, je vais répéter, mais je sais, donc je répète. Hein. L'immaturissimamente a perquetans, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Surtout pas d'immaturissimamente a perquetans. Hein. Non, Michael, c'est lui. Il vient d'être là, il est créé par Dieu, il est là, et il dit, mais il y a que... il voit des espèces de Lucifer qui tombent, qui s'accrochent à ses ailes, qui veulent le faire descendre, et il dit, dégagez, pas d'a priori, s'il vous plaît. Pas d'a priori, il n'y a que Dieu qui compte. Qui est comme Dieu? C'est Dieu qui compte. Donc, le premier genre littéraire, si je puis dire, la première manière d'entrer dans l'esprit de l'écriture, dans la lettre de l'écriture, dans le genre de l'écriture, le genre c'est Dieu et la lettre c'est la parole de Dieu, c'est d'adorer Dieu. Le premier genre littéraire, c'est l'adoration. Il ne faut jamais aborder la parole de Dieu en disant je vais lire la parole de Dieu, je la connais déjà, je vais essayer de la comprendre un peu mieux. Surtout pas! Tu démarres en disant, moi, je... Rien. Jusqu'à maintenant, la parole de Dieu ne m'a rien dit, me dit pas grand-chose. En tout cas, j'ai tout oublié. Si, peut-être que la parole de Dieu, heureusement, m'a brûlé intérieurement. J'ai été brûlé dans Dieu grâce à la parole de Dieu. Mais il faut quand même que je me mette dans aucun a priori. Voilà l'idée. L'idée, c'est que je dois prier, je dois supplier Dieu de me montrer que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris jusqu'à maintenant de la parole de Dieu. Et donc je me mets dans un état de prière. Vous voyez, je me débarrasse de tous mes a priori et je vais lire la parole de Dieu d'une manière innocente, pure, michaélique. Je ne peux pas vous dire mieux, n'est-ce pas? Qui est comme Dieu? C'est pas moi qui domine la parole de Dieu. C'est Dieu qui me domine grâce à sa parole. Vous voyez, c'est ça. C'est un genre littéraire. C'est ce qu'on appelle le premier. Vous voyez, le A. Il faut commencer par ça. Si on ne commence pas par ça, eh bien, je serai incapable, et on le verra peut-être, on l'a déjà vu, mais on ne serait pas capable de rentrer dans le secret. Je ne serais pas capable de rentrer dans la surabondance. Je ne serais pas capable de communiquer ce que la parole de Dieu m'a communiqué. Je ne serais pas capable de m'effacer. Je ne serais pas capable de contempler. Je ne serais pas capable de traduire. Je suis capable de rien du tout. Je ne peux pas traduire. Pourquoi est-ce que je vais traduire? Puisque je sais déjà. Vous voyez? Et c'est terrible, parce que les exégètes que vous entendez quelquefois, à la télé ou je ne sais pas où, eh ben ils disent, voilà, c'est comme ça, quoi. Alors, ils vous lisent la parole de Dieu, alors c'est ça. Et puis, tel passage a été raccroché par la communauté antérieure. Enfin, Dieu n'a rien à voir avec ça, finalement. Rien. C'est les hommes, la communauté a dit, bon, ben, voilà, je vais rajouter ça. Ça doit dater. Alors, il y a la partie dans la Genèse, par exemple, le livre de la Genèse, bon, même le livre de la Genèse. Il faut être gonflé. La Torah. Prenez compte, la Torah. Alors, vous avez la partie yahwiste, la partie éloïste, vous prenez des pertes ciseaux même à l'intérieur, ça, bon, bah, et ils en sont, mais alors, complètement convaincus, hein, complètement. Hein. Ça, vous ne pouvez pas, et même, ils vont vous sortir presque même des textes du pape, je suis désolé, les textes du pape Jean-Paul II, concernant cette question, quand il a commenté le livre de la Genèse, il dit, ces passages que certains déclare être de tradition éloïste, par opposition au texte donc des chapitres 1, que certains déclarent être de tradition sacerdotale. Enfin, il ne dit pas que c'est son opinion, il dit que certains, enfin, c'est mieux. La parole de Dieu, elle vient de Dieu, la parole de Dieu. Elle vient de Dieu. Alors, ça, c'est vous voyez, comme c'est très important. Si j'ai un a priori, vous voyez, si j'ai un a priori, c'est-à-dire, eh bien, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le Targum. Alors, qu'est-ce que c'est que le Targum? Le Targum, c'est la manière de recevoir la lettre de l'Écriture. Je vous ai dit la dernière fois, et donc je vous le répète, la parole de Dieu, la Bible que vous avez, ce n'est pas la Bible. Faites voir la vôtre. Bon, la Bible de Geneviève, c'est pas la Bible. Oh, ça, c'est la meilleure. Ah, ça y est, elle a un a priori. Ma main Bible, c'est plus. Ah non ? Ah non, non, non. Oui, mais. Oui. Ah, ben, Chouraki, il a dit, ma Bible, c'est mieux que les autres. Mais. On peut donner plusieurs sens. La Bible de... c'est la meilleure. Alors lui, il dit, c'est celle qui se rapproche le plus. On va en parler, vous inquiétez pas, on est là pour en parler, d'accord? On va en parler, n'est-ce pas? Ça, c'est la Bible de Chouraki, n'est-ce pas? Oui, c'est très intéressant, la Bible de Chouraki. Voilà. Oui, alors, bon, il n'est pas, voyez, il n'est pas dans ce... Mais il avait fait un prologue dans les premières éditions, qui n'est pas ici, je vois.
Et, il n'y a pas parce que c'est la Bible de poche.
D'accord. Et il disait dans son prologue de la première édition, il disait, évidemment, j'aurais pu traduire autrement. J'aurais pu, mais quand j'avais fait des choix, j'ai fait systématiquement des choix. Vous voyez, I resist. C'est un choix. J'ai fait des choix. Et les choix que j'ai faits étaient systématiques. Et mes choix, c'était pour montrer que le Messie était un homme. Mais dès que les textes portaient à être traduits pour montrer que c'était la divinité, que c'était le Créateur, et qu'il y avait une ambiguïté, qu'il y avait une possibilité que ça aille vers l'humanité, je mettais l'humanité. Donc, il dit lui-même qu'il a un a priori dans la traduction. Donc, il fait pencher systématiquement sur l'unique humanité, ça va ? Il le disait lui-même, avec honnêteté, du reste, très honnête. Bon, ça veut dire quoi ? Dès que vous avez un texte français, sachez bien que ce n'est pas, donc, la Bible. Et ça, ce n'est pas la Bible. Oui. La Bible de Jérusalem est une des Bibles les plus éloignées. Il y en a qui sont pires qu'elle, notamment la Tob. Je crois que la Tob est encore pire que Jérusalem. Mais rien que dans le livre de la Genèse, on relève, j'ai lu un texte de Redermacher, qui est un très bon bibliste, hébraïsant, etc. Il a relevé, je crois, 302 erreurs dans les tout premiers chapitres de la Genèse. 302 erreurs de traduction. Pourquoi ? Parce que les biblistes de Jérusalem, eh bien, ils ont des a priori. Ils disent, bon, on ne peut pas mettre ça quand même. Vous voyez ? Bon, Dieu créa l'homme à son image. Tiens, vous voyez ce verset, j'ai regardé ça avec Geneviève avant-hier, je crois. Hein. Dans l'hébreu, on a regardé Dieu.
Dans la Bible,
verset 28 du chapitre 1 de la Genèse, je crois. Bon, je ne m'en veux plus exactement. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il le créa. Bon, alors, vous voyez, Shuraki, vous voyez, on commence à faire du targoum, là. Hein. Et là, on l'a regardé dans le texte hébreu, avec les lettres hébraïques, pas la traduction avec Geneviève. On a regardé ça, et puis on regarde ici comment Shuraki, et on regarde comment Shuraki l'a targoumisé. Comment Shuraki a reçu les lettres. Vous voyez ? Quel a été comment le 1 de Shuraki ? Quel a été le 1 de Saint Jérôme ? Quel a été le 1 de l'Onkelos ? Quel a été le 1 de Jérusalem ? Ben, le 1 de Jérusalem est tellement nul qu'on ne peut même pas parler d'exégèse globale. C'est en dehors, c'est même pas un targoum. On considère que la Bible de Jérusalem n'est pas un targoum parce qu'il ne respecte pas la lettre de la révélation. La Tob n'est évidemment pas un targoum. La Tob, c'est presque quelquefois le contraire. Alors, je veux dire, bon. Alors, justement, c'est ce qu'on regarde ici. On va regarder quel critère, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le critère. Voilà. Verset 26, chapitre 1. Voilà comment on fait. Nous ferons Adam, le glébeux, à notre réplique, selon notre ressemblance à... Attendez. Non, c'est pas ça. Dieu créa l'homme à son image, Voilà. Verset 27. Elohim crée le glébeux à sa réplique. Glébeux, c'est Hadam. Hadam, voilà. C'est l'écriture rabbinique, oui. L'écriture rabbinique cursive. Ah, je suis désolé, moi j'écris qu'en cru. Ah oui, mais ça c'est vous, ça, c'est... Hadam. Aleph, le M. Ça s'écrit dans cette direction, de droite à gauche. Hadam. Hadam, ça veut dire le boueux, le glébeux, la glaise, le glaiseux. Glaiseux. Hé Adam. Hé Adam. Le glébeux, c'est pas. Donc, le boueux. Vous savez, il prend de la poussière, il met de la salive, il fait de la boue. Et il fait de la boue. C'est à un autre moment qu'on monte dans le chapitre 2 que c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on, dans le chapitre antérieur, hein, n'est-ce pas, chapitre 1, on met Adam à cause de ça. Le glisse va dire, oui. Et en plus, on va dire que le premier est antérieur au second, n'est-ce pas? C'est ce qui est... C'est ridicule que ces deux traditions qui sont fait donner Éloïse et sacerdotale qui ne sont pas de la même époque, alors qu'on voit bien que c'est exactement la même inspiration. Ce n'est pas fait selon le même style.
C'est une hérésie de dire
que c'est des époques différentes. Voilà. Donc, Elohim crée le boueux à sa réplique. Lui, il met le glébeux. À la réplique d'Elohim, il le crée. Mâle et femelle, il les crée. Oui, ne serait-ce que ça. Mâle et femelle, il, donc Dieu, les crée. N'est-ce pas? Alors, je ne me rappelle plus comment on dit mâle et femelle, on va laisser tomber. Bon, vous voyez bien que ce n'est pas Ish et Isha. C'est pas Ish, Isha. C'est mâle et femelle, donc c'est comme pour les animaux. Donc, c'est pas homme et femme non plus, en hébreu. C'est mâle et femelle, bara. Alors, il y a les mots, je ne sais plus, mâle et femelle, bara. Alors, echam. N'est-ce pas? C'est ça qu'on a regardé hier avec vous. On s'amuse avec Geneviève à faire des... Alors, au commencement, Dieu créa, bara, l'homme à son image, Adam, à son image. À son image, bara, créa, Elohim, Dieu, lui. Et mâle et femelle, bara, Eram. Il créa. Eram, c'est quoi, vous savez? Erhad. Erhad, c'est un. Dieu est un. Shema Israël, écoute Israël, Adonai est le Seigneur, Elohenu est ton... Le Seigneur est ton Dieu, et Adonai Erhad, le Seigneur est un. Adonai Erhad. Erhad. En fait, c'est pas un R, c'est pas un Resh, vous voyez, c'est un Ret. Eh bien, c'est Erhad au pluriel, le M remplace le D, n'est-ce pas? Un. Alors, on dirait, si je voulais traduire un espèce de français, n'est-ce pas? Un français approchant, alors, ça mettrait quoi? Ça mettrait que mâle, mâle, je crois que le mâle et femelle, c'est pas mauvais. Mâle et femelle, créa, un. Et je le mets au pluriel. Vous comprenez pourquoi toutes nos traductions en français sont un petit peu ennuyeuses. Alors, les gens, vous savez, de la Bible de Jérusalem, ils disent, on ne peut quand même pas mettre ça. Alors, mâle et femelle, alors on va mettre homme et femme, c'est mieux, tu vois. Mais, non, mâle et femelle, créa un, au pluriel, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que moi je vous ai dit pendant des années, n'est-ce pas, que je traduisais personnellement, homme et femme, il le créa, parce que quand je mets... il le créa. Pourquoi? Parce que je veux exprimer surtout le point de vue de l'un. Mais c'est vrai que c'est aussi il les créa. Mais c'est Eram, Erhad qui.
En hébreu, il existe le pluriel de l'intensité.
Oui, c'est pour ça que moi je préfère mettre le, parce que dans Eram, ce qui domine, c'est le un. Et si je le mets, c'est comme je mets Elohim, n'est-ce pas? Elohim. C'est le pluriel. Il y a un seul Dieu, mais je mets l'intensité sur Dieu. Alors, pour multiplier Dieu, pour qu'il n'y ait que Dieu, je mets le pluriel. Donc, l'un, c'est Adam, le mâle qui n'est plus mâle parce qu'il est un avec la femelle, la femelle qui n'est plus femelle parce qu'elle est un avec le mâle, et le mâle et la femelle ne sont plus ni mâle ni femelle parce qu'ils sont un dans l'unité des deux. Il y a un qui se multiplie. Il ne reste plus que un. Et du coup, c'est plus mâle et femelle, c'est homme et femme. Et c'est pour ça que je vous ai toujours traduit « le ». Ben, trouvez-moi dans n'importe quelle Bible où il y a marqué « le ». Pourtant, c'est la signification juive de Eram. Alors, on va mettre « il est créable ». Ils disent « Eram » au pluriel. Ben oui, mais ça ne va pas. Vous comprenez? Bon, ils pourraient mettre en note, c'est possible qu'on puisse mettre « le ». Aucun ne le fait. Donc, alors, ceci est très important. Bon, et c'est le pape qui nous a mis le doigt là-dessus. Je vous ai fait un an là-dessus, vous vous rappelez, sur la sponsabilité, n'est-ce pas? Puisque le pape a développé pendant 3 ans et demi la conséquence de ça. Quand même. Alors, tout ça pour vous dire que la Bible que vous avez en français, il faut la lire, c'est évident. C'est évident. Personne ne vous dira le contraire. Mais il faut que vous sachiez qu'à travers cette Bible en français, vous n'avez pas le contact avec le pshat. Donc vous ne rentrez pas dans la manière chrétienne de rentrer dans l'écriture. Vous direz, moi, l'hébreu, c'est trop compliqué.
Oui.
D'accord.
Moi-même, je connais les mots, mais je n'arriverai pas à lire. Vous... Mais les textes, c'est évident.
Tout à fait.
Il y a les verbes, il y a les...
Oui, oui, c'est très compliqué. Mais il ne s'agit pas de connaître la Bible en hébreu. Il s'agit de savoir. Il s'agit de savoir que... Et oui, c'est ça. Exactement. Et donc, il faut savoir, donc, quand vous lisez l'Écriture, que cette Bible n'est pas la révélation. Il faut donc trouver un moyen de sentir, de toucher la Bible dans la révélation qui vient de Dieu. Et c'est ça, Targoum. Ah ! Comment targoumiser ? Puisque vous n'avez pas le temps de lire, d'apprendre l'hébreu, vous n'avez pas le temps d'apprendre le grec, vous n'avez pas le temps, etc. Donc, on va quand même targoumiser. C'est ce qu'on va faire les fois prochaines. Et oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que je vous ai proposé la fois précédente. Écoutez, quand vous avez une Bible, je vous en supplie, ne prenez pas juste votre petite Bible parce qu'elle est commode. Prenez-en plusieurs. Prenez celle de Souraki, prenez celle de la Bible de Jérusalem, même si... prenez celle de votre missel, voyez, prenez votre missel, prenez l'évangile par exemple de dimanche, vous regardez, ah tiens, c'est le passage, du coup vous prenez votre Bible de Jérusalem, puis vous en prenez une autre, par exemple celle de Crampon, etc. Vous prenez plusieurs. De préférence, ne prenez pas celles qui sont vraiment très très loin, qui n'ont vraiment pas respecté du tout. Mais prenez celles qui ont ce souci quand même d'être proche du texte, pas celles qui essayent d'être proche des hommes qui cherchent à s'entendre. C'est la tobe, mais cherche celle qui est proche du texte. C'est pas, bon. Alors, prenez-en plusieurs. Et quand vous lisez plusieurs, voyez, on peut le faire. Donc ici, là, vous prenez Souraki, voyez. Et puis il prend. Elohim crée le glébeux à sa réplique. À la réplique d'Elohim, il le crée. Mâle et femelle, il les crée. Et puis vous prenez Dieu créa l'homme à son image. Ça doit être, je ne sais pas, n'importe quelle autre traduction. À son image, il le créa. Homme et femme, il les créa. Et puis vous prenez une autre traduction encore. Je ne sais pas. Et puis, vous vous rendez compte que finalement, bon, ce n'est pas les mêmes, d'accord? Ce n'est pas du tout la même traduction. Mais vous dites quand même, il y a quand même des sacrées différences. Même quelquefois, vous vous rendez compte que vraiment, ça n'a rien à voir d'une traduction à l'autre. Strictement rien à voir. Oui. Alors là, vous avez de la chance. Quand vous en arrivez là, vous avez de la chance. Parce que vous vous dites, pour que je puisse avoir des traductions en français qui soient si diverses à partir d'un même texte, vous sentez qu'il y a une direction, ça vous permet de sentir qu'il y a quelque chose derrière, il y a un texte derrière, voyez. L'intuition va fonctionner. Vous sentez qu'il y a quelque chose derrière. Vous sentez qu'il y a un texte qui est derrière tout ça. Vous sentez que ce n'est pas ces textes-là. Mais le fait que l'un les traduit comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça, ça vous permet de pressentir... Au moins ça, il faut au moins que vous ayez cette évidence que le texte que vous avez en français, c'est pas ça. Et qu'il y a un autre texte derrière. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous arrivez à ça,
c'est que vous avez touché le pshat. Et si vous avez touché le pshat, à ce moment-là, vous êtes dans une attitude targumique. C'est-à-dire que vous voyez que la parole de Dieu, c'est vraiment une approche. Voyez, c'est une manière dont ça a été reçu par quelqu'un de manière subjective. Mais grâce à ça, eh bien, vous voyez, vous pressentez où est la lettre. Voyez, il faudrait peut-être prendre des exemples. Je suis tout à fait d'accord. Prenez par exemple ici là. Peut-être vous pouvez prendre aussi acheter. Si un jour vous voyez une Bible en latin, n'hésitez pas à l'acheter, même si vous ne savez pas le latin. Et si vous avez un petit peu appris le grec, au moins à le lire, même si vous ne connaissez aucun mot en grec, ah, c'est encore mieux. Moi, par exemple, je ne connais pas le grec, mais j'arrive à peu près à... C'est dur à lire le grec, parce que ce n'est pas les mêmes lettres de l'alphabet. Hein. Mais le fait d'avoir le texte en grec, c'est très intéressant, parce que on a, avec le Nouveau Testament, la parole de Dieu dans l'original. Et si vous ne connaissez pas la traduction de chaque mot, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que vous avez au moins la consonance originale. Et cette consonance originale, elle vous touche quant à l'oreille, au même moment où vous pressentez que c'est elle qui dit la vérité et qu'elle dit des choses différentes de la traduction. Donc il y a quelque part, la lettre est efficace, voyez bien, même si vous ne la comprenez pas. Voyez, vous aurez Jésus qui parle uniquement araméen, et puis qui vient vous toucher, il vous dit une parole, il vous touche, hein, il vous a touché, il vous a parlé, pas en français, mais ça fait rien. Ça vous fait plus de choses que si Jésus vous a touché spirituellement et que vous n'avez pas entendu sa parole, ni sa voix, etc. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu, il faut y avoir quelque chose comme ça. Il faut avoir ce souci, ce désir, même si on n'a pas le temps d'apprendre l'hébreu ou le grec, ce désir de l'entendre dans l'original, vous voyez. Quand vous avez Jésus qui vient dans la synagogue, et qui ouvre le rouleau de la Torah, et puis il tombe sur un passage d'Isaïe.
Alors, il tombe pas, vous connaissez l'histoire. Il tombe pas.
Non, bien sûr, il tombe pas. Et c'était ce jour-là, la parole de...
La liturgie juive,
oui.
Encore actuellement.
Et bien donc, il est bien tombé.
Ben,
il est tombé sur le bonjour, alors.
Il savait tout.
Et donc, il est bien tombé. Alors...
Il n'y aura pas dit quelque chose pour se faire prendre pour le Messie.
Ah non, bien sûr. Et non, parce que tout le monde sait, Geneviève, que dans la synagogue, c'est comme dans l'église catholique. Pour chaque dimanche, il y a des paroles d'écriture qui sont lues dans toutes les synagogues. La paracha du jour, tout à fait. Donc ce jour-là, c'était Isaïe. Donc il tombe sur Isaïe et il ouvre le livre d'Isaïe. Et quand on lit dans la synagogue la paracha, la parole de Dieu, alors cette parole de Dieu, elle n'est pas en français. Elle est en hébreu. En hébreu, même à l'époque de Jésus, il lisait ça donc dans l'hébreu, que personne ne comprenait, puisque ça faisait déjà 1500 ans qu'elle avait été écrite, cet hébreu-là, personne ne le comprenait, l'hébreu, plus personne, il parlait araméen, c'est comme si quelqu'un vous le lisait en grec, pareil. Donc, il a lu en hébreu. Et comme d'ailleurs dans les synagogues de l'époque, et encore aujourd'hui, on lit donc en hébreu, le premier verset, c'est verset par verset. À la fin du verset, une phrase, si vous préférez, on arrête. Et Jésus, ou un autre, hein, si c'est lui qui lit la parole de Dieu, tu vois, quand tu lis l'épître de Saint Paul à la messe, il faudrait que tu fasses ça, que tu le lises d'abord en grec, tu t'arrêtes à chaque phrase, et que tu donnes la traduction en français. Et c'est ce qu'on appelle le targoum. Et le targoum n'est pas écrit. C'est-à-dire que tu livres le rouleau, il lit l'hébreu, n'est-ce pas? Il pose le rouleau à ce verset et il donne la traduction. Et cette traduction, tu ne peux pas l'inventer. C'est la traduction de Onkelos, la fameuse. Ça, c'est le targoum juif, on appelle ça l'Onkelos. Celui qui va servir de base, celui qui va servir de base au Talmud de Babylone. L'Onkelos. C'est un targoum, c'est-à-dire une traduction. Une traduction, elle explicite, comme je viens de faire pour Eram. Quand ce que je vous ai fait tout à l'heure en disant Eram, je vous ai fait le targoum de Eram. Donc, vous voyez que ça prend plus de temps pour exprimer un mot original qu'une simple traduction. Bon, donc, cette traduction, elle est fixée par la tradition de Moïse et des rabbins. Ce targoum, il est fixe. Vous ne pouvez pas, le mec, il ne peut pas dire, ben voilà, je vais traduire à ma manière. Non, non, il donne un targoum qui est clair. Il doit l'apprendre par cœur. Il ne doit pas le lire. Il doit donc lire en hébreu et il doit dire par cœur, en araméen, la traduction, qui prend évidemment 2-3 fois plus de temps ordinairement que le verset lui-même. Puis il va au verset suivant, il dit le verset suivant en hébreu et il donne le targoum. C'est comme ça qu'on le fait. Et on a gardé cette tradition chez les moines, même dans l'Église catholique, puisqu'à Pâques, on proclame l'évangile de la résurrection en grec. Et puis, après, on l'exprime éventuellement en latin, parce que c'est le targoum de l'Église catholique, et enfin en français. Parce que chez les Hébreux, le targoum, qui est retenu comme étant infaillible, c'est l'ankelos, et pour l'Église apostolique, c'est la Vulgate de Saint Jérôme. Et la Vulgate latine de Saint Jérôme, c'est la seule targoum que nous ayons dans l'Église catholique. Celle qui s'en approche le plus dans la traduction française, alors vous voyez, c'est même plus un targoum, à mon avis, mais alors vous voyez, pas obligé d'y croire, puisque, mais à mon avis, c'est Crampon. Dans Crampon ? Ben, moi, j'aime bien Crampon quand même. Oui, mais enfin, j'ai quand même le Nouveau Testament.
Oui, mais vous avez...
J'ai quand même la Torah.
D'accord. Ouais. Oui, mais vous avez la Torah, mais pas les Testaments canoniques.
Oui.
Dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas les titres de Pierre, de Jacques, etc.
Dans Crampon. Ah, je vérifierai, mais vous m'intéressez en me disant ça. Je ne savais pas. Oh, ben.
C'est affirmé, parce que justement, c'est les protestants Crampon.
Ah non, vous confondez avec Second. Ah non, c'est second, c'est protestant dans Crampon, enfin voyons.
Oui, d'accord.
Geneviève, vraiment, vous m'humiliez, là. Bon, alors.
J'ai confondu Crampon et Second.
Oui, Crampon, c'est Second, c'est Second, les protestants.
C'est Second, parce que alors là, parce que c'est pas mauvais comme traduction.
Bon, alors, retenez à Vulgate. Donc, on continue. Retenez, rappelez-vous toujours, hein, Ankelos, c'est un targoum en araméen. Et non, puisqu'il ne parle pas l'araméen. C'est dans le Talmud. Vous voyez, pour se connaître le Talmud chez les Juifs, c'est pas commode, il faut qu'ils connaissent l'hébreu biblique, l'hébreu mishnique, l'araméen de la Gemara. Et il faut qu'ils connaissent leur hébreu moderne, plus leur langue locale. Il faut qu'ils connaissent 5 langues. Oui, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et oui, c'est pas commode. Et ils le font. Ils le font. Hein. Bon. Donc, retenez quand même que vous avez 3 targoums officiels où vous êtes sûr que ce sont des targoums. Donc, qui bénéficient de l'irradiation divine de l'écriture en raison de la tradition. C'est l'ankelos araméen, la vulgate latine et la septante grecque. La Septante, c'est les 70 d'Israël, vous le savez, qui, à Alexandrie, se sont réunis pour traduire la Torah, l'Ancien Testament, notamment, les textes de l'Ancien Testament, pas tous, mais ceux qui étaient considérés comme absolument canoniques à leur époque, par tradition orale, et ils l'ont traduit en grec. Mais c'est les 70, avec la grâce d'infaillibilité des nations d'Israël de l'époque. Hein. Et donc, vous le savez, c'est les 70. On dit 70 parce qu'ils étaient 70 savants, les plus grands savants d'Israël de leur époque. Ils ont traduit ça. Voilà les 3. Alors, la 70 est en grec, la Vulgate c'est en latin, l'Ankelos c'est en araméen. Alors, évidemment, ce que demande le Concile Vatican II, c'est qu'on targoumise la parole de Dieu. Et donc, à la rigueur, qu'on corrige la Vulgate, à condition que ce soit en fonction des autres targoums. et elle propose qu'on fasse une néo-vulgate. N'est-ce pas? Bon, ça, tout ça, c'est de la culture générale, je m'excuse, mais enfin, c'est quand même important. C'est-à-dire, si vous rencontrez des prêtres qui disent « Oui, mais ça, c'est pas de l'exégèse », vous leur dites « Alors, qu'est-ce que vous faites dans Kélos ? Qu'est-ce que vous faites ?» Ah, ça fait bien. Bon, si tu parles de ça et qu'il dit « Oui, mais... L'onkelos, tu ne sais pas ce que c'est embêtant. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un targum, c'est embêtant. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une haggadah, un midrash, ou, etc., c'est embêtant, très embêtant. Bon, alors, donc tu ne peux pas discuter, oui. Saint-Jérôme, mais c'est Saint-Jérôme, c'est un des tout premiers pères de l'Église, je crois que, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est le 3e siècle. Mais si, bien sûr, c'est ce que dit. Le crampon est celui qui essaye d'être le plus proche de Saint Jérôme, d'une part, du grec, d'autre part, et de l'hébreu, lorsqu'il peut y accéder, enfin. Et il met toujours dans les notes, s'il dérive, s'il met une traduction différente de la Vulgate de Saint Jérôme, il le met en note. Donc c'est quand même quelqu'un qui a le souci de coller le plus possible au Targum. Hein? Et aussi au texte, éventuellement, au texte, au littéral du texte. Hein? C'est pour ça que c'est le plus intéressant. C'est son seul souci, lui. Et puis c'est pas mal, je veux dire. Comme... Bon, ça veut pas dire si tu as une Bible de Jérusalem, fous-la à la poubelle. Non, pas du tout. Il faut prendre la Bible de Jérusalem. C'est au contraire, ça a son intérêt. Puisque c'est de regarder ce que donnerait le texte lui-même si on savait rien d'autre. Hein? Sans la tradition. Donc, est-ce que vous voyez ce que c'est que le Targum? Le Targum, donc, c'est une manière de recevoir la parole de Dieu. Je vous dis le signe, une petite méthode. Prenez une Bible, prenez une autre Bible, et de préférence, si vous le pouvez, prenez une Bible qu'il vous est impossible de comprendre dans le même verset, en latin par exemple. Parce que grâce au latin, vous allez quand même reconnaître des racines, quand même. On a quand même une intelligence latine, qu'on le veuille ou non. Mais au moins, vous allez sentir, ça c'est su, vous allez sentir qu'il y a un texte original derrière et vous allez avoir envie, même si vous ne le touchez pas, vous allez avoir envie de le connaître. C'est cette seule envie de le connaître qui est l'attitude tarkoumique. À ce moment-là, dès que vous avez envie de connaître ce texte que vous êtes impossible de connaître parce que vous ne connaissez pas l'hébreu ni le grec, dès que vous avez envie de le connaître, alors à ce moment-là, vous êtes dans une attitude tarkoumique. Oui. Ça va? Bon, alors, du coup, vous passez à la Haggadah. Si vous avez envie de le connaître, hein, c'est parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui dépasse tout à fait la traduction, votre manière, dans votre langue de le comprendre. Il y a quelqu'un qui parle sa propre langue. Il y a quelqu'un d'autre. Et là, je vais aller plus vite, parce que je l'ai fait la dernière fois. Vous allez vous rentrer dans un nouveau genre littéraire. Vous comprenez qu'il y a, à l'intérieur de la parole de Dieu, quelqu'un qui est présent. Et ce quelqu'un qui est présent, c'est un saint. Déjà? C'est un saint. Et ce saint, donc je termine Haggadah avant qu'on prenne un pot. Alors, ce saint, c'est un inspiré. Il est brûlé par l'Esprit Saint qui va se servir de son cœur, de son corps, de sa langue, de sa culture, etc. Il va servir de Moïse. Moïse est un inspiré. Hey, l'inspiration, le hey, n'est-ce pas? La lettre hey en hébreu. Et Moïse, c'est un inspiré. Alors, Haggad, et ça vient de Neged. Neged, face à face. Le face à face, Neged. Neged, c'est face à face. Quand vous êtes face à Dieu, eh bien, vous êtes vous, n'est-ce pas? Par exemple, Yohanan, Jean, est face à Elohim. Yohanan, Neged Elohim. Jean, Neged Elohim. Jean est face à face avec Dieu. Dans le principe était le Verbe. Et le Verbe, Hologos, n'est-ce pas? Bastard, je crois. Et le Verbe, voilà, Neged Elohim. Il est en face de Dieu. Face proston theon. Le Verbe est face à face avec Dieu. Quand je dis attention, Bazar, Neged, Elohim, c'est un targoum. Mais si je dis que le Logos, hein, exactement, si je le dis en grec, ce n'est plus un targoum. Oh là là, je vais vous le dire, parce que là, il faut l'entendre une fois au moins. Ça, la différence entre un targoum. Là, j'ai fait le contraire, vous voyez. Je prends le texte original en grec de Saint Jean. Vous voyez. C'est marrant à faire comme petit exercice, mais enfin. Voilà. Dans le, au commencement était le Verbe, et le Verbe était... Ah oui, ça c'est marrant tout. Et le Verbe était... avec Dieu. On voit dans certaines traductions. Et le Verbe était avec Dieu. En latin, verbum erat apud Deum, en grec, alors, hologos, alors, en prostanteon. Prostanteon. Prostanteon, c'est face à face. C'est pas avec. Hein? Hein, je suis avec mon chien. C'est pas face à face. C'est quand même pas pareil. Il faut sentir, c'est cela, vous verrez, prenez les traductions, vous verrez, vous n'avez pas trois traductions pareilles, là. Hein. Donc, quelquefois, ils mettraient, pour Logos, ils vont mettre la parole, carrément, la parole. Au commencement, était la parole. Non, mais, faut être vraiment frappé. D'accord. C'est pourquoi? Parce que c'est ce que vous portez qui se communique, alors ils vont mettre parole. C'est pas faux, mais c'est pas Logos. Il y en a d'autres qui vont mettre le discours. Au commencement, était le discours, j'ai vu ça. Oui. Logos, le discours. C'est un discours, oui, si on veut. Au commencement est le Verbe. Moi, c'est vrai que je préfère le Verbe. Saint Jérôme dit Verbe. C'est un targum, n'est-ce pas? Vous voyez? In principio erat verbum. Donc, pros ton theon. Face, pros. Face ton theon à Dieu lui-même. Vous voyez? Alors, ha, un hé, un inspiré. Quelqu'un qui épouse Dieu, parce que le hé, c'est féminin. Et puis, vous avez le féminin, Haggadah. Ah, le A, He, Aleph, He, c'est Aleph, He, c'est le féminin d'inter. Mais en même temps, c'est un autre inspiré, vous voyez. Ça se termine par un autre inspiré. Moïse, complètement inspiré par Dieu, est face à l'inspiration créatrice de Dieu, le Créateur. La première Haggadah de l'Écriture, c'est Genèse, chapitre 1, c'est la création. Chapitre 1 à 11, c'est la première Haggadah. C'est Moïse qui est totalement inspiré par l'Esprit Saint et qui tourne intérieurement et face à l'inspiration créatrice de Dieu et il communique. Vous voyez? Et puis, la deuxième Haggadah de l'Écriture, c'est chapitre 11 jusqu'à la fin de la Genèse. C'est le grand inspiré Moïse qui est complètement inspiré par l'Esprit Saint, par le nom, la présence du Yod, c'est-à-dire du Père, du Het, du face-à-face, de la lumière, et puis de l'amour en Dieu, la très sainte Trinité, on dirait aujourd'hui, complètement pris par ça, et il est face à un autre inspiré, c'est Abraham. Et évangile de Jésus-Christ, inspiré par le Verbe, inspirant l'Esprit-Saint, selon saint Jean, selon saint Luc. C'est Luc, c'est saint Matthieu, complètement inspiré, brûlé par l'Esprit-Saint, un deux à l'intérieur, qui se trouve face dans sa vie contemplative, il a, si tu es face à face de manière contemplative, tu assimiles. Hein? Tu as assimilé. C'est comme l'Eucharistie. Il est face à Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Si tu rentres pas dans l'un, tu rentres dans l'inspiration. Vous voyez que tu t'aperçois que cette lettre, c'est un saint qui est inspiré, mais son inspiration, elle t'est donnée aujourd'hui, si tu veux, pour que tu aies la même inspiration que lui, pour que cette lettre te fait rentrer dans la grâce qu'il a reçue, lui, au moment où la révélation sortait de ses doigts, de ses mains. Et c'est l'Esprit Saint, et à ce moment-là, tu te rends compte que ce n'est pas toi, ni lui, qui est origine de ce passage, c'est l'Esprit Saint. Comprenez? C'est ça, cette attitude de Haggadah. Elle est très importante, cette attitude de Haggadah. Il faut avoir une charité. Tout commence par la charité chrétienne, charité fraternelle, charité vis-à-vis de l'autre. J'épouse quelqu'un, un saint. J'aime saint Jean. Si je ne l'aime pas, hein, si je n'aime pas Moïse, je ne pourrai jamais lire la Genèse. Si je n'aime pas Élie, je ne pourrai pas lire le livre des rois, n'est-ce pas? Vous comprenez? Si je n'aime pas Isaïe, si je n'aime pas... Il faut que j'aie un amour fou. Un amour fou. Et à ce moment-là, je l'aime. Mais vous voyez, c'est Dieu qui l'aime, l'Esprit Saint qui l'aime. Alors, je suis quand même, grâce à la lettre de l'Écriture, grâce au Targum, voilà, cette inspiration qu'il a moi-même, n'est-ce pas? Bon, elle résonne, elle sort de moi, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est l'attitude du Haggadah. Et Saint Jean-Baptiste qui dit, voyez, c'est tout à fait ça, les textes qu'on lit en ce moment sur Saint Jean-Baptiste, qui dit, voici l'agneau de Dieu, il s'est baptisé dans le Jourdain, voici l'agneau de Dieu. Il est totalement inspiré, Jean-Baptiste, complètement pris par, il n'est pas pris par lui-même, il est pris par Dieu. Pris par Dieu, c'est l'ami de l'époux, quoi. Il est complètement pris par cet amour du Père, de Dieu, la première personne de la très sainte Trinité, puis il voit l'épouse, c'est extraordinaire. Et en voyant le Verbe de Dieu incarné, il voit cette espèce de déchirement entre le Père et le Fils. C'est ça l'agneau de Dieu, c'est le déchirement entre le Père et le Fils. C'est lui. Inspiré, et il te met face à face, il est inspiré et il te met face à face avec Jésus, dans son mystère intérieur, cette déchirure, cette séparation, l'amour séparant du Père et du Fils, n'est-ce pas? C'est très très fort ça, de comprendre ça. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Saint Jean-Baptiste? Il se retire, il s'efface. Il vaut mieux que je disparaisse et que lui, donc non, je ne suis pas digne de dénouer, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Il s'efface. Et cet effacement extraordinaire, voyez, vous êtes ici, moi, je suis grâce à la parole de Dieu, face à Dieu, face au Christ, face au Messie, face à tout ce que vous voulez, face à Moïse, face à Abraham, je veux dire. Grâce à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, s'efface. Il s'efface. Vous voyez, moi, je lis l'Écriture. Du coup, je rentre dans l'inspiration de Jean-Baptiste qui, lui, voit le Messie, l'agneau de Dieu. C'est ça, ça c'est Haggadah. Et du coup, je suis un avec lui, avec Jean-Baptiste. Et au moment où je suis un avec lui, il s'efface. Et comme il s'efface, je me trouve dans l'unité avec lui, mais entre lui et moi, il y a tout un espace, n'est-ce pas? Il y a lui, moi, nous formons un seul corps. Et il y a tout un corps mystique qui se crée. Et c'est au fond toute l'Église qui est du coup présente à travers moi, avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effacement. Voilà, ça y est, je suis rentré dans le machal. Machal, ça veut dire s'effacer. C'est que celui qui est inspiré et qui voit Dieu de cette manière-là, tout intérieur, il s'efface. Et du coup, je suis moi-même face directement à ce qu'il voit. Mais comme lui aussi, il est là, celui qui s'est effacé, tous les autres sont là. L'Église a commencé. C'est pour ça que pour Rabbi Akiba et pour le Talmud et pour la tradition juive, le remède est source de l'attitude du peuple d'Israël. C'est tué, j'allais dire, comme le réceptacle de la réceptivité d'Israël tout entier. C'est toute l'Église, si tu en dirais aujourd'hui, qui à travers toi, l'épouse, voyez bien, qui voit l'époux. C'est ce que dit Saint Jean-Baptiste quand il dit « Je m'efface ». Ses disciples viennent le voir et disent « Moi, je suis dans le ravissement. J'ai disparu parce que je suis l'ami de l'époux et je suis dans un ravissement d'allégresse parce que l'épouse, l'Église, est pour l'époux. Et je suis dans un ravissement de joie à la voix des épousailles. » C'est bien l'Église, le Christ et son épouse, l'époux et l'épouse. Vous voyez, ça c'est tout à fait l'attitude rémésétique, ou si vous préférez, machalique. Machal veut dire, Rosh HaMachal, c'est le premier ministre actuellement dans le moderne hébreu, n'est-ce pas? Rosh c'est la tête et Machal. Bon, Machal ça veut dire conduire. Si vous voulez. Mais pour Israël, pour l'hébreu, conduire, tu ne peux pas conduire si tu t'effaces pas. Non, pour la paternité spirituelle, tu t'effaces. Tu ne vas pas dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est pas ton truc. Quelqu'un qui fait comme ça, c'est pas un père spirituel. Il ne faut pas faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas de la direction ou de la manipulation ou, vous voyez, l'obéissance cadavérique. C'est pas comme ça. L'obéissance spirituelle, la paternité spirituelle, c'est tu t'effaces. Regardez comment fait Jésus, hein, c'est vrai. Il s'efface. Dans l'Eucharistie, il s'efface. C'est à l'Église de faire. C'est pas? C'est à l'épouse de faire. C'est à toi de faire. C'est à toi, directement. Vous n'avez plus besoin qu'on vous instruise. L'Esprit Saint vous inspirera. Voyez bien. Et Machal, c'est ça. C'est s'effacer. Ça veut dire en même temps, ça peut se traduire par s'effacer, ça peut se traduire par conduire. Et on va dire, par exemple, Dieu dit, il crée l'homme à son image, et il dit, dominez sur les poissons de la terre, sur les animaux qui courent sur l'orbe de la terre. Le terme dominer, qui est traduction de la Bible de Jérusalem, est faux. Pourquoi? Parce que c'est machal. C'est pas moi, c'est dominer, c'est s'effacer. C'est même pas pareil. En t'effaçant, en te mettant en dessous, en t'humiliant face à la création, aux poissons, aux animaux, en te mettant en dessous, à ce moment-là, tu es dans l'adoration, du coup, tu portes toute la création en Dieu. Tu la conduis. Si tu t'effaces, c'est toute la création que tu conduis, n'est-ce pas? Mais c'est l'effacement qui domine, n'est-ce pas? C'est pas dominer, n'est-ce pas? Hein? C'est l'effacement qui domine, mais c'est pas de la domination qui s'efface, n'est-ce pas? Si, c'est la domination qui s'efface. C'est l'effacement qui domine et c'est la domination qui s'efface. Tout à fait. Alors, quand on traduit, voilà un exemple, vous voyez, d'une traduction fausse à partir de l'hébreu. Machal, c'est pas dominer, c'est s'effacer, c'est conduire en s'effaçant. Et pourquoi est-ce que la Bible de Jérusalem fait ça? Parce qu'elle commence pas par A. Elle commence pas par l'adoration. Et c'est marrant, l'attitude qu'elle a au départ, je domine la parole de Dieu, et du coup elle va faire les traductions. C'est vraiment de la transe. On appelle ça, comment ça, de la transe, quand tu... Une projection, n'est-ce pas? Elle projette sa propre attitude sur la traduction elle-même. C'est énorme, ça. Vous voyez, ça, il faut comprendre ces choses-là. Vous voyez, alors, machal, c'est s'effacer. Et vous voyez ce que c'est que le machal, cette attitude-là? C'est que vous, quand vous lisez la parole de Dieu, une fois que vous avez été saisi par l'inspiration de Saint Jean, que, il faut que vous soyez déjà en état de contemplation, hein, que vous soyez pris par l'Esprit Saint déjà, hein, parce que c'est ce qui passait à Agada. Alors à ce moment-là, vous vous effacez vous-même et vous laissez toutes les portes ouvertes pour que l'Église en vous pénètre dans votre corps. Votre corps devient le temple de l'Église. Votre corps devient le temple visible du corps mystique de l'Église. Et vous portez, justement, vous voyez, c'est toute l'Église à travers vous qui découche Jésus à travers l'Écriture. C'est ça, la machalisation de l'Écriture. C'est donc la quatrième attitude, et on va répéter ce qu'on avait fait la dernière fois en voyant les suivantes.